Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ce soir, on parle du merveilleux monde du camionnage avec Benoît Perrien de Truck Stop Québec, qui est au bout de la pipe, comme disait l'autre. Salut Ben!
Salut Yann, comment ça va?
Content de te jaser, puis tu sais quoi? T'as une voix testiculaire, j'aime bien le dire. Et ce midi, j'ai rencontré une autre voix testiculaire qui s'appelle Claude Thibodeau.
Je sais pas si ça te dit quelque chose.
L'encyclopédie de la radio. Un gars qui a fait pas mal tous les métiers. Je pense qu'il était journaliste, lecteur de nouvelles à la radio. Il était animateur à la radio. Il était directeur de la programmation. Il était propriétaire aussi, directeur général. Puis, j'ai pas osé y poser la question, mais je vais m'ennuyer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, des belles grosses voix radio qu'on avait autrefois dans les années 60, 70, 80, 90 même. Je pense que la dernière belle grosse voix qu'on a eue à la radio de Québec, c'était Stéphane Gass, qui avait tout un muffler. Puis là, ben moi, j'ai toi. J'ai Benoît Terrien le soir à Boulevard de Truck Stop Québec. Mais toi, as-tu déjà fumé?
Jamais dans 100 ans.
T'as jamais fumé? Parce que souvent, ceux qui fument se ramassent avec des nodules, puis ça fait une voix beaucoup plus grave. Puis c'est la raison pour laquelle il y avait des annonceurs qu'on appelait dans le temps à la radio qui fumaient énormément, parce que plus ils fumaient, plus il y avait une belle voix. Aujourd'hui, des voix comme eux sont de plus en plus rares. Puis tu fais partie de ceux-là. Mon chum Jordan aussi, que vous pouvez entendre à la radio de Québec, qui a une belle grosse voix, là, très soivée, puis qui était un non-fumeur toute sa vie.
Mais je sais pas si... ça a rapport avec quelque chose. Moi, je pense juste que c'est tout simplement dans le kit audio que ça fait que ça sort de même. Parce que dans la vie de tous les jours, j'ai pas une voix très grave, mais je pense que, puis partout où on passe dans les optimodes de ce monde, je pense que c'est là où il y a une modification de voix. Puis c'est le thème de voix qui est comme amplifié un peu, où ça sort peut-être avec plus de bass.
Ouais.
Je sais pas pourquoi.
Mais tu sais, moi, je m'ennuie des voix comme Jacques Fabi. Tu sais, Jacques Fabi qui avait une voix qui sortait quasiment d'outre-tombe, là, tellement que sa voix était grave. Puis je parlais, c'est ça. Je parlais avec Claude Thibodeau. Puis sa voix me fait penser, sans nécessairement le vieillir, là, mais en même temps, j'ai pas le choix. Je veux dire, Claude Thibodeau, il est un peu plus vieux que moi. Sa voix me fait penser aux animateurs des années 70, 80, 90. T'sais, c'était encore plus prononcé, je pense, quand les gars étaient sur le AM.
Oui, effectivement, puis on dirait que ça prenait la voix pour faire partie d'une équipe de radio. T'as-tu connu à Montréal un animateur qui était à C'est quoi à l'époque et qui s'appelait Michel W. Duguay?
Ben oui.
Et qui avait la voix, lui ici. Je pense qu'on s'en servait pour faire, tu sais, les annonces de films d'horreur, là, les trailers, où c'était « La grosse voix de Michel W. Duguay ». Je me plaisais, dans ce temps-là, je travaillais dans un commerce de nuit, puis à 3h du matin, c'était comme une ligne ouverte. Tout le monde pouvait appeler, puis il n'y avait comme pas d'animateur pendant 15 minutes de temps. Ils rouvraient les lignes, puis ils pitchaient le monde en ligne. « Dis ce que tu as à dire, n'importe quoi. » Puis moi, je me plaisais à téléphoner là une fois de temps en temps et dire « Salut, c'est Michel W. Duguay. Les 5 prochains appels, vous gagnez un voyage au Mexique pour 2 personnes. » Fermez la ligne. On appelait, puis il disait
« Hey, j'appelle pour le voyage, moi, là. »
Ouais. OK, mais est-ce que c'était en direct, Ben?
Live.
Hey boy, c'est un danger, ça, pour l'antenne, là.
Oui, mais à ce moment-là, hey, puis ça, on remonte à un petit peu d'une trentaine d'années, 30-35 ans.
Hey, la nuit, là, tu peux avoir des fois du cabochon, pas pire, là.
Parce que t'as des gens à 3h, t'as des gens qui sortent des clubs,
ben
qui
oui.
sont un peu intoxiqués par toutes sortes de substances, et t'as des gars comme moi qui ont juste ça à faire de niaiser de main. Fait que, non, mais c'était drôle. Puis un moment donné, l'animateur s'appelait Gary Epi, je me rappelle pas de son prénom, puis lui, il disait « Hey, hey, c'est pas vrai, ça, là. »
OK, il pouvait prendre quand même le micro, OK.
Ah oh, oui. Tu sais, puis c'était juste drôle, là. C'est de valeur que ça soit pas encore, tu sais, de même en 2024, parce que je pense que ça faisait un peu d'humour, là, tu sais, c'était pas...
C'était Gilles Gariepi.
Gilles Gariepi, c'est ça. Et lui, ben, tu sais, il reprenait ça en disant « Non, c'est pas vrai, ça, là, c'est un imitant, hein, c'est quelqu'un qui l'imite, tu sais. » Fait que... Mais ça a été des belles années. Puis effectivement, moi, je suis un peu de ceux et celles qui ont entendu les soirées. C'était CKVL 850, puisque j'étais dans la région de Montréal à ce moment-là. Et c'était Roger Drolet qui jouait le soir. Le fameux philosophe, je ne sais pas trop quel titre il donnait, mais Roger Drolet parlait de la vie avec tout le monde. Puis il y avait.
Ben là, Monsieur Benoît, votre bague, je l'ai découvert.
La théorie du 3 secondes, Yann, est-ce que tu sais c'est quoi?
Non, je me souvenais du bague de Roger Drolet, là, parce qu'il parlait de son bague tout le temps, puis du bague des autres. La théorie du 3 secondes, c'est-tu Drolet qui avait sorti ça?
C'est Roger Drolet qui avait sorti ça lui-même, et puis je m'appelais des fois à poser la question, est-ce que tu es dans la théorie du 3 secondes? Et la théorie du 3 secondes, ben, c'est que si tu penses à une fille, toi, pendant 3 secondes, c'est que tu aurais le goût, selon Roger Drolet, de coucher avec, OK? Et ça veut dire que c'est la théorie du 3 secondes. Les gars, nous autres, après 3 secondes, on sait déjà si on aurait l'instinct de chasse et qu'on voudrait aller plus loin avec le sexe opposé. Et c'est la théorie du 3 secondes. Fait que des fois, j'ai un de mes chums qui me rappelle ça, que lui ici, ça jouait chez eux. Il dit, Ben, est-ce que tu as la théorie du 3 secondes? Je dis, non, oui, peut-être. Fait que c'était une des théories de Roger Drolet. Il y avait le bague, puis surtout... Surtout quand quelqu'un l'appelait, puis mettons qu'il disait « Ah, moi, je suis en amour avec une femme, je l'ai vue bien. » Puis là, lui, Roger Drolet, parlait par-dessus, puis il disait « Il est pogné, là. Il est pogné dans le bague. » Ça faisait de la bonne radio à cette époque-là. Là,
ouais. Puis je me souviens pas de quelle était la formation de Roger. Quelle était la formation de Roger Drolet? Y avait-tu un peu de psychologie comme étude ou tout ça? Mais moi, ce qui me surprenait à chaque fois, c'est de voir le nombre de personnes qui lui faisaient confiance, qui se confiaient à lui, puis après ça, écoutaient ce que Roger Drolet avait à leur dire. Puis parfois même appliquaient les fameuses techniques de Roger Drolet. C'était pas un jovialiste, là. Comme on avait dans le temps des années 80, André Moreau, c'est pas ce type-là de personne, Roger Drolet?
Ben, il y avait une maîtrise en sciences sociales, selon Wikipédia, de l'Université de Laval. Il a enseigné le journalisme et la communication publique à l'Université Laval en 86 jusqu'en 94. Puis après ça, ben, il a fait le Canal Savoir, il a fait d'autres choses, là. Mais sciences sociales, est-ce que ça donne peut-être les études nécessaires? Aujourd'hui, là, tu sais, un médecin dirait « Madame, devriez prendre des Tylenol le matin et soir », puis il peut se faire quasiment accuser de dire que c'est un mauvais diagnostic sans avoir vu le ou la patiente. Roger Drolet, lui, dirigeait un peu ici et là dans toutes sortes de ce qu'il pensait, là, tu sais, être les bonnes avenues possibles, mais... Je pense pas que... Écoute, un médecin aurait pu faire mieux, mais ça fait de la bonne radio en bon français. Et, tu sais, on le sait, ce que les gens aiment, un peu comme Fabi la nuit, comme d'autres émissions...
Ben comme je le faisais dans le temps des lignes ouvertes, là.
Oui, comme tu as fait. C'est une présence qu'il y a, et il y a une faune autour de ça, de personnages, de gens... qui appelle soit à toutes les émissions, soit une fois de temps en temps. Et ça fait comme un genre de réconfort avant de t'endormir ou en t'endormant. Combien de gens souffrent d'insomnie la nuit, puis là, il n'y a plus grand-chose à écouter la nuit, là, à part le podcast de Moi puis toi ensemble.
Mais, exact.
Non, mais c'est vrai, parce que de plus en plus, on ferme tout ce qui était proximité avec les gens. Tu m'as déjà dit, toi, un moment donné, il y a certaines radios qui devraient repenser à être plus proches de leur auditoire et faire des émissions qui vont attirer l'auditoire et on va être plus proche de l'auditoire. Mais visiblement, bon, je comprends qu'on ne doit pas faire des millions en radio avec une émission de nuit, mais ce que tu vends en publicité, tu vas le chercher, puis c'est des budgets, des fois, qui ne vont pas attribuer à tes compétiteurs. C'est peut-être la seule façon.
Ouais.
Est-ce qu'un jour, il y aura sur le web des émissions lignes ouvertes de nuit? Je pense qu'on doit être à la veille d'entendre ça parce que le budget n'est pas le même, puis que les dépenses ne sont pas les mêmes aussi, puis qu'éventuellement, ben, L'Internet est présent partout. À cette heure, c'est juste que le bouche à oreille fasse son œuvre.
Oui, c'est de trouver aussi les gens qui sont disponibles à travailler le soir et la nuit. Bien souvent, ces gens-là vont dire Ouais, je suis capable de le faire. Puis après 6 mois, ils vont tout simplement abandonner parce que travailler de soir et de nuit, que ce soit à la radio, que ce soit, je sais pas moi, dans le transport, tu sais, toi avec ta gang à Truck Stop Québec, les gars qui nous écoutent présentement, tu sais, c'est, ils savent, là, c'est pas toujours facile. Tu es à l'envers du monde. Des fois, ta conjointe, elle dort pas en même temps que toi. Donc, nécessairement, la fin de semaine, il faut que vous trouviez un terrain d'entente. Toi, la fin de semaine, tu commences à être fatigué sur certaines heures alors qu'elle est allumée comme un rond de poêle. C'est pas facile de travailler de nuit, surtout avec des jeunes enfants. Moi, je l'ai vécu. Ça fait partie de mes plus belles années de radio. Je pense qu'il en reste plein de belles années de radio que j'aurai à vivre. Mais travailler de soir, avoir une ligne ouverte le soir et la nuit, ça demeure à ce jour encore le plus bel accomplissement que j'ai eu parce que c'est ce que je voulais faire de ma vie, tu sais, travailler de soir et de nuit jusqu'à la nuit des temps. Puis après ça, ben, une fois que j'ai eu fait le tour de ça, je me suis dit, ah ben c'est ça, j'ai apprécié. Puis avant de me tanner, parce que je ne ferme pas la porte un jour à revenir à la radio de soir, que ce soit ici ou encore sur Internet, mais revenir à la radio de soir puis refaire un peu ce qu'on faisait dans le temps, c'est-à-dire des lignes ouvertes où on jasait avec le monde. Tu sais, qui sait, peut-être que ça va revenir, mais ça ne m'a pas enlevé le... Quand je suis parti, c'est parce que je ne voulais pas m'enlever le goût de travailler de soir. Et ce que je trouve exceptionnel pour ce qui est de la radio de soir, c'est que je me suis rendu compte que les gens ne nous prenaient pas nécessairement tout le temps comme un bruit de fond. Ils nous écoutaient.
Ouais.
Parce qu'on parle plus lentement. Il y a des techniques, bien entendu, qu'on fait le soir, qu'on ne fait pas le jour. On parle beaucoup plus lentement. On parle de manière beaucoup plus personnelle avec les gens qui nous entourent. On n'a pas une radio qui est très formatée, la radio de soir. On est capable de jaser jusqu'à temps que la discussion soit terminée plutôt que de mettre une pause à chaque 8 minutes. Fait que c'est une autre technique, mais c'est quelque chose qui m'a fait découvrir, tu sais, la belle gang de la région de Québec qui écoute la radio le soir et la nuit. Honnêtement, ça, tu sais, je t'en parle, là, puis je me souviens encore de ces années-là. Je suis un peu nostalgique parfois. Bon Dieu que j'ai eu du plaisir. Puis quand je croise les auditeurs, tu sais, qui m'écoutent maintenant, que ce soit sur les ondes de Truck Stop Québec ou encore sur Boulevard, quand je croise les auditeurs, puis ils disent « Hey, j'aime ça ce que tu fais le jour, mais j'aimais aussi ce que tu faisais le soir puis la nuit. » Puis, tu sais, cette personne-là qui t'appelait, là, c'était-tu vraiment une vraie personne? Tu sais, Monsieur Tardy, combien de personnes m'ont dit que c'était pas... il existait pas, Monsieur Tardy? Bien, à un moment donné, j'ai invité Monsieur Tardy en studio. Puis on l'a pris en image vidéo pour prouver aux gens que M. Tardy existait. Clément qui est malheureusement décédé, un ancien chauffeur du RTC qui était tout à fait adorable, 75 ans. Monsieur avait de la misère aujourd'hui en 2000, tu sais, à évoluer dans notre société. Puis il nous parlait une fois par semaine ou une fois par deux semaines. Tu sais, les gens me disaient « Yann, t'as-tu des nouvelles de Clément? Yann, t'as-tu des nouvelles de M. Tardy? Yann, t'as-tu des nouvelles de Roxane?
» La fille court après.
C'est incroyable. Ouais.
Mais tu sais que des fois, puis j'imagine que ça t'arrivait où il y a des soirées où on ne sait pas pourquoi, puis on ne peut pas expliquer. Tu pourrais ouvrir les lignes, puis tu regardes tes circuits, puis il n'y a pas rien qui flash. Tu te dis, misère, qu'est-ce qui se passe à soi? Il y a peut-être un événement à TV, il y a peut-être quelque chose. Puis après ça, on dirait que ça se met à sonner et ça n'arrête plus. Puis la radio, tu sais, c'est un média... où c'est instantané. Quand tu dis allô, à moins d'un délai quelconque, sur le web, je pense que c'est 6 ou 8 secondes, là. Mais en mode FM, c'est instantané. Là. Tu te dis comment ça se fait que les lignes ne sonnent pas. Puis là, il se crée un stress qui est bon aussi parce que tu vas devoir avoir ton plan B. Il faut toujours avoir un plan B en radio. Et ton plan B, là, tu vas dire OK, je vais m'aligner vers mon plan B. Tous les circuits allument. Tu te dis, on dirait que tout le monde sont timés pareil. Et quand tu quittais à minuit, j'imagine que les circuits étaient encore pleins et que tu aurais pu jaser jusqu'à 1h, 2h du matin parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de fin. Et tout le monde a de l'opinion. Puis, tu sais, t'as emmené M. Tardy. Nous autres, on avait Grognon que tu connais.
Qui m'appelait aussi Grognon, ben oui.
Oui, qui disait « Allô! » C'était Grognon. Et Grognon, nous autres, sur le satellite, il était dans toi et ligne ouverte. Écoute, il y avait 4-5 shows, 6 shows par show. Il était dans toi et ligne ouverte. Puis là, il nous appelait, puis je ne sais pas, demande-moi pas comment. Des fois, je faisais exprès, je relâchais les lignes juste après 2-3 minutes, mais c'était toujours lui qui était le premier ou le deuxième. D'après moi, il y avait un speed dial. Et il lâchait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait le rendre intéressant? Bien, c'est à force de l'enregistrer, de découper sa voix en, je sais pas, au moins 400, 500, 600 fichiers de répliques, de mots et tout ça. Fait que des fois, il m'appelait, puis c'était mes répliques qui lui répondaient. Fait que si Grognon, il disait « Allô, comment ça va? » Bien, c'était lui-même qui se répondait « Ça va bien, ça va bien. » Fait qu'on avait du fun avec ça. C'était juste drôle à l'époque. Puis c'était comme ça qu'on l'avait rendu. Tu sais, notre job aussi, c'est de rendre les gens, des fois, qui appellent trop souvent, bien, faut les rendre un peu drôles. Fait que c'était le meilleur moyen de rendre notre chum Grognon assez drôle.
Fait que bref, on est nostalgique, on aime bien ça jaser oui. de radio, puis merci beaucoup pour ces petits moments, Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Hey Ben,
pas de problème.
Comment?
Il n'y a pas de problème, comme dirait Grognon.
on dirait que je l'entends encore dans mes oreilles. Es-tu encore en vie, Grognon?
Oh oui, il m'appelle des fois.
Ah oui, bon.
Mais Grognon, il peut m'appeler à 2h l'après-midi, quand on est en onde à 4h. Et me dire,
ouais, c'est quoi le sujet du jour aujourd'hui? Je voudrais peut-être m'exprimer.
Petit Grognon, là, je devrais pas dire ça sur tes ondes, mais là, j'y parle d'un sujet 3X assez délicat. Puis on va en parler aujourd'hui. Ça a l'air, ça se passe.
Ouais, ben, je pense que je vais passer mon tour.
Hey, passons au sujet qui nous intéresse, sujet des dernières heures. Je ne sais pas si tu as vu ça passer hier. Je l'ai mis un peu sur ma page Facebook, je l'ai mis sur Twitter X. C'est un article de La Presse, si je ne me trompe pas, où on parle du maire d'Outremont qui a décidé, lui, qu'après 10 secondes dans Outremont, eh bien, les automobilistes vont devoir éteindre leur moteur, sans quoi ils pourraient avoir des amendes allant de 50 à 100 $. Incroyable, quand même.
Tu sais, Yann, les gens qui travaillent dans des bureaux, des fois qui sont élus, des fois qui ne sont pas élus, gérants d'estrade qui... Puis je vais parler pour l'industrie du transport. Outremont n'est peut-être pas la capitale mondiale du parc industriel dans la ville de Montréal pour avoir des camions, mais il se fait de la livraison de camions. Puis tu comprendras qu'un camionneur, mettons, qui fait plusieurs livraisons, monte, descend les escaliers, qui va démarrer son camion à peu près à toutes les quelques centaines de pieds pour aller faire de la livraison, lui, ce qui arrive, son problème, c'est qu'il a chaud. L'été, il va faire 30-32 parce que cette réglementation-là va opérer entre 0 et, mettons, 20 degrés. Puis c'est à 20 degrés, là...
C'est 0 et 25, Ben.
25. Bon, ben à 23, moi, j'ai chaud. Puis si tu me fais aller livrer des colis au deuxième ou au troisième étage, je suis moins en forme peut-être, puis même si j'étais en forme, j'ai chaud pareil. J'ai besoin de mon air conditionné, climatisé. Et là-dessus, l'hiver, quand il fait 3-4 degrés, on comprend qu'on a des kits de chauffage d'appoint dans les camions, mais un camion local n'a pas ce chauffage-là. Fait que des fois, il laisse virer le camion, passer moins de troubles, puis je ne suis pas tellement certain que... on fait énormément de pollution. Dans le sens où, oui, un gros camion, ça fait du bruit, mais au niveau idle, avec un diesel, est-ce qu'à la fin de la journée, ça a paru tant que ça? Je ne suis pas tellement certain. Puis là, ça va donner le goût, tu sais, à qui? À d'autres maires de d'autres régions de dire, pas fou, ouais. Pas qu'on ferait pareil.
C'est exactement ça que je jasais sur l'heure du midi. Puis des fois, on n'a pas tout le temps de rentrer dans la discussion puis essayer d'émettre certaines hypothèses. Tu sais, Ben, on va se le dire, là, Outremont, tout le monde s'en sac. On parle aux auditeurs des Québec et aux auditeurs de Truck Stop Québec. Là. Tout le monde se sac d'Outremont aujourd'hui, là, je pense, là, à part ceux qui ont à faire là-bas ou encore ceux qui sont résidents. Mais le fait est qu'un conseil de ville décide d'imposer une loi à Outremont, comme quoi, après 10 secondes, si vous laissez votre véhicule rouler quand même alors que vous êtes au neutre, vous vous exposez à des amendes. Je disais 50 $ tantôt, mais c'est plus que ça. C'est 150 à 350 $ pour une infraction, de 350 à 600 $ pour une récidive. Que ça passe, ça va... Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est une idée complètement débile, là, mais ça va donner idée à d'autres villes. Je prends exemple sur Montréal ou encore Québec, un maire marchand qui est très, très vert, qui pourrait se dire « Ah, ben ça a bien du bon sens, ça, empêcher les véhicules de rouler plus que 10 secondes. » Fait qu'on va embarquer là-dedans aussi. Quand ça va tomber dans votre cas, vous allez peut-être un peu plus chialer. Là. Puis, tu sais, je veux que le message soit clair. Je pense que tu es un peu comme moi, là. On essaie le plus possible de faire attention à notre environnement. On s'aperçoit que les technologies, année après année, s'améliorent, sont de moins en moins, ces technologies-là sont de moins en moins nocives pour l'environnement et on adhère à ça. On est pour l'environnement, puis on veut laisser une place à nos enfants qui soient propres quand nous, on va partir. Mais ce genre de décisions-là, c'est des décisions qui sont extrêmes. Et c'est pas vrai que les extrémistes vont commencer à diriger notre société. Là. C'est le gros bon sens qui devrait diriger notre société et non les extrémistes qui essayent, par des moyens assez drastiques, de nous faire abandonner le véhicule tout simplement parce qu'ils se disent, tiens, les autorités vont les écœurer assez qu'ils vont se débarrasser de leur véhicule.
Mais il y a une mentalité, surtout dans la région de Montréal, d'être anti-véhicule, anti-propriétaire de véhicule, parce que si tu as un véhicule, tu es un moins que rien, mais si tu en as deux, tu es encore moins que rien. Puis, tu sais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans le passé, dans le sens où tu te rappelles les premiers démarreurs à distance où tu démarrais ton véhicule, puis il s'éteignait juste au moment où tu embarquais dedans. Ça, c'était les premières technologies. Après ça, on a mis des minuteurs sur les démarreurs à distance. Ça veut dire que bon, ça pouvait virer, je te dis un chiffre de même, 20 minutes. Aujourd'hui, quand tu as fait virer, je pense que c'est 5 minutes, c'est 15 minutes pour un diesel, puis ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Le véhicule a besoin de ça. Ça veut dire que si le fabricant t'a installé lui-même le kit de démarrage et qu'il se dit, lui, à 8 minutes, le véhicule a assez viré, que tout est correct et puis il est assez chaud, tu es sécuritaire, 10 secondes, tu pars le véhicule et puis tu vas te rendre, je ne sais pas moi, sur l'autoroute et tu vas monter ton RPM. Le véhicule est à froid. On va te donner un exemple, il fait moins quelques degrés. Là. Bien, ça prend quand même une bonne distance réchauffer le véhicule. De 0 à 25, je n'ai pas trop de problème. Sauf que pensons à l'industrie du camionnage qui va dans vos rues à Outremont et pour une raison X, il faudrait que je reste chez le client peut-être en attente 4 heures de temps. Cette valeur, j'ai le choix d'être confortablement assis dans mon camion, laisser virer le truck pour avoir une température décente, pas geler dedans ou pas avoir trop chaud dedans, ou m'asseoir sa chaise dans le bureau puis patienter puis être mal assis puis d'entendre tout ce qui se passe dans le bureau, c'est pas bien le fun. Fait que je vais choisir peut-être et éventuellement, il y aura probablement des industries qui vont avoir bien de la misère à envoyer des chauffeurs chez certains clients, à Outremont notamment, parce qu'il n'y aura pas de confort, il n'y aura pas rien. Puis c'est plate à dire, là, dans notre industrie, là, même s'il y a des gens qui disent les camions, ça pollue, tout ça, effectivement, mais on s'est tellement auto-réglementé, moi, depuis la fin 2000, je suis dans l'industrie du camionnage, et 2001, pour être très précis, 1er janvier 2001, j'ai mes clés, je roule avec un camion, mais... T'sais, force est d'admettre qu'on s'est amélioré grandement. Les jupes latérales, là, le dessous de trailer que vous voyez avec la publicité dessus, là, ben ça a fait en sorte qu'on s'est amélioré. Tout ce qui est moteur, énergivore, avant, on était content de faire, mettons, 6 000 au galon. À cette heure, ben, on est à peu près, dans certains cas, là, à peu près à du 26 litres aux 100 km avec une charge d'environ 35 à 40 000 livres. Et bon, on va aller avec plus de consommation si on est plus chargé ou si c'est du transport très spécialisé. Mais à 26 litres au 100, c'est peut-être l'équivalent d'un pick-up aujourd'hui qui tire une roulotte assez pesante. Fait qu'on est proche du 26 litres au 100 quand on a le pick-up. Mais bon, je pense que notre part est grandement et largement fait depuis nombreuses années. Les fabricants travaillent bien fort pour avoir une belle image. Et il y a la Californie qui nous rentre aussi beaucoup dans le corps avec des mesures de plus en plus sévères contre la pollution. Après quelques années, tu ne peux plus rentrer si tu as un moteur, disons, qui date de tant d'années. Une remorque réfrigérée qu'on appelle un reefer, si elle date de plus d'une dizaine d'années, si je ne m'abuse, elle ne peut plus rentrer en territoire californien parce qu'elle émet des émanations. Puis ils se sont décidés, voter des lois comme ça. Ma crainte, puis je l'ai dit, puis on se dit souvent, c'est que là, est-ce que des villes comme Québec, Montréal, vont vouloir emboîter le pas et commencer à vouloir gérer la façon que les gens réchauffent leurs véhicules et que, est-ce que, si on prouve que, tu sais, si on m'appelle demain, on dit, Ben, t'étais dans le champ, à cause des 20-25 minutes que tu as attendu dans ton truck, ben, tu as fait tant de kilogrammes de pollution et versus si tu avais resté en dedans. OK, mais le confort, ça se paye aussi en quelque part. Puis, est-ce qu'on aura plein de villes qui vont emboîter le pas? Je ne sais pas, mais moi, quand je vois, puis il faudra que les gens d'Outremont regardent ça, quand il y a un paquet de déneigeurs de la ville, pas les privés, ils font ce qu'ils veulent, mais si les déneigeurs de la ville arrêtent au restaurant puis ils se disent « Si tu penses, je vais rembarquer dans le loader qui est bien gelé, je vais le laisser virer », on verra ça l'hiver prochain si la loi est encore bonne puis si elle privilégie bien des gens. Malgré qu'on est toujours de 0 à 25, mais ça veut dire que c'est un début. L'année prochaine, ça sera peut-être moins 5 à 25, puis après ça, moins 10 à 25. On va toujours augmenter ces valeurs-là. Et si on regarde à Gatineau, c'est doté aussi d'une réglementation qui ressemble à celle d'Outremont, mais on a dit que, bon, on enlevait les véhicules immobilisés en raison d'un embouteillage. J'espère qu'il n'y aura pas de policiers qui vont voir sur le trafic. Ça fait 20 secondes que la lumière n'est pas tombée au vert. Je vais t'envoyer un ticket. La circulation dense, un feu de circulation. Fait qu'on a, voulu mettre ça dans le règlement municipal. Les véhicules lourds, lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant départ, ça, c'est une règle de sécurité dans notre industrie. Il faut partir le moteur, il faut qu'il veille plus que 10 secondes. Puis, bon, conformément à l'article 519,2 du Code de la sécurité routière, un véhicule lourd aussi dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire, une génératrice en bon français, on a de besoin. Système de chauffage aussi, j'ai besoin d'un système de chauffage dans mon camion, va falloir qu'il veille. Bien, on ne mettra pas à l'amende des camions comme ça. Le véhicule de sécurité blindé. Les gardas de ce monde, les bestes de ce monde qui vont dans les guichets automatiques, le véhicule doit rester en marche. Je n'ai pas vu ça à Outremont encore.
Non, c'est ça.
Le véhicule qui fonctionne à l'hydrogène, à l'électricité ou hybride, on a cru bon de le mettre parce que probablement qu'on aurait des sources de conflits. Puis des véhicules qui seraient affectés par le givre, le verglas, puis on va laisser le temps requis aux conducteurs pour avoir une conduite préventive, donc enlever tout ça, chauffer le véhicule. J'ai pas vu ça à Outremont, tu sais. Je peux comprendre que certaines villes, par les citoyens, vont se faire pousser d'entrer des règlements comme ça, mais la ville a été assez popée à Gatineau. Il manque encore quelques articles, selon moi, là, dodo dans un camion, etc., mais ou plusieurs livraisons sur la même rue. Mais j'espère qu'Outremont va emboîter le pas et va dire, effectivement, notre réglementation, on vise certains types de véhicules, puis pour d'autres, ben on va enlever ça de notre réglementation.
Mais qui va s'occuper de faire la police? Est-ce que ça va être les policiers eux-mêmes? On va-tu embaucher des agents de sécurité qui vont avoir le droit de donner ce type de contravention-là? Est-ce que ça va être les gars puis les filles qui sont sur les autoroutes qui s'occupent normalement des camionneurs et camionneuses? Qui va s'occuper de faire respecter ce règlement-là? Je pense que tu veux pas être policier autrement. T'es supposé de courir après les voleurs. T'es pas supposé de courir après les gens qui, après 3 secondes, leur véhicule, ils veillent. « Hey, toi, viens ici, tu m'as donné un ticket de 300 $. Maudit cave, tu pollues ma planète. » T'imagines-tu à quel point on écœure aussi en même temps les policiers avec ce genre de décisions-là?
Mon opinion, Yann, là, ça va être tout dépendamment de l'argent à faire avec les infractions. S'il y a beaucoup de sous à faire, on va mettre une escouade idle. C'est probablement ça qu'on va travailler. On va mettre 4-5 agents de sécurité le matin, là, entre 6h et 8h, qui vont surveiller là, ceux qui laissent virer les véhicules. Un shop le soir, là, tu sais, il doit y avoir des shops là, à Outremont. Bien, on va se promener dans le stationnement. Oh, lui, il vient de le partir. 10 secondes, 11 secondes. Bon, on va faire un constat. S'il y a de l'argent à faire, moi, je gagerais qu'on va créer des équipes. Je pense pas que les policiers, à moins d'avoir vraiment du temps de lousse ou faire des opérations visées, qu'aujourd'hui, on est dans le stationnement, qu'il y a 400 véhicules, on va checker qui laisse virer plus que 10 secondes. À 11 secondes, voici le constat d'infraction. bien, ça, la ville va juger ça selon le nombre de constats émis. Il y a souvent des fois que la menace fait plus peur que la réalité. Et là, les gens vont dire, ouais, je vais pas me faire pogner, fait que je le laisserai pas virer.
Ouais.
Si 100% des utilisateurs qui font virer leur véhicule une minute, deux minutes ou 10 minutes actuellement réduisent à 10 secondes, la ville vient de gagner son point. Si jamais il y en a juste la moitié, ben, par la force des billets d'infraction, ben, on va créer des obstacles ou des équipes pour aller facturer, qui vont s'autofinancer. On appelle ça des percepteurs d'impôts déguisés. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Puis, sois pas surpris qu'en 2024, qu'au début de novembre, décembre prochain, qu'il y ait des villes qui disent « Bonne idée, Outremont. C'est quoi votre réglementation? Envoyez-moi ça, puis je vais mettre ça à exécution dans ma ville. » Parce que je trouve qu'on pollue trop. Je sais pas, je me suis levé ce matin, il faisait pas tellement froid, mais tu sais, j'ai pas vu de smog à cause des autos qui viraient dans ma rue. J'ai pas vu, tu sais, puis je le sais, il y en a qui vont dire, oui, mais tu penses pas à l'atmosphère, tu penses pas au CO2 que ça fait. Effectivement, mais si mon véhicule va 4-5 minutes, j'embarque d'un véhicule chaud, je pense que le confort, ça a sa place. Et naturellement que les gens qui militent contre ça, on est-tu capable de se trouver un juste milieu en se parlant et non pas en m'imposant? Puis moi, quand je me sens imposé, j'ai le goût d'imposer à ceux qui m'ont imposé. Ça finit plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'il y ait une assemblée extraordinaire du conseil de ville en disant « Vous voyez ça comment? J'ai besoin de 10 personnes qui représentent les gens qui veulent faire virer leur véhicule. J'ai besoin de 10 personnes qui sont contre. C'est quoi le terrain d'entente? » Et non pas « Je t'impose ça, puis advienne que pourra. » J'imagine que si tout le monde arrêtait de rouler en véhicule au Canada, je dis bien juste au Canada, puis réduisons la taille au Québec, je pense qu'on est une goutte dans l'océan à travers le monde sur tout ce qui est pollution. On ira en Chine, là, d'après moi, là, les petits véhicules deux temps, les mobilettes et compagnie, pas mal sûr que ça fait beaucoup plus de pollution que ton nouveau véhicule qui est peut-être hybride, qui est peut-être même à essence. Puis comme moi, j'ai un diesel qui consomme à peu près 8 litres aux 100 km. Un véhicule diesel, on voyait pas ça il y a à peine 20 ans, 30 ans. Là, t'sais. Aujourd'hui, ben, les fabricants le savent. Ils essayent de trouver des technologies pour améliorer la consommation d'essence de tous ces beaux véhicules-là, y compris dans notre industrie du camionnage. Puis c'est comme ça. Fait que, tu sais, on n'est jamais capable de trouver de terrain d'entente. Il y a toujours une imposition, puis c'est ça qui me frustre le plus.
Exact, exact. Mais des fois, on a l'impression que les fous ont pris le contrôle de l'asile. On va reprendre nous autres un peu, puis on va se dire que ça se passe à Outremont, puis qu'on espère que ça n'arrive pas vers Montréal et Québec.
Mais aux États-Unis, Yann, là, à des endroits, là, dans des truck stops, il y a des résidents. Parce que souvent, un truck stop, là, ça a 30, 40, 50 ans d'existence dans une sortie d'autoroute quelconque. Là, il est arrivé des maisons. Le syndrome, pas dans ma cour, là. Fait que là, on s'est mis une grosse clôture en arrière du truck stop, puis on a bâti une belle maison, là. Puis là, ben à cause que les gens ont fait pression sur les conseils municipaux, ben c'est écrit « No idle » de telle heure à telle heure. Fait que la nuit, on ne devrait pas faire d'idle. Mais s'il fait moins 30, là, je peux te dire une affaire, au diable, le règlement, moi, j'ai besoin que mon moteur parte le lendemain, mais j'ai besoin aussi d'avoir un peu de chaleur dans la cabine. Oui, le chauffage d'appoint va fournir, mais il y a une certaine limite à ce qu'il peut fournir. Puis un véhicule diesel, quand il fait très froid, est plus difficile à démarrer, puis tu vas être sûr qu'il va démarrer le lendemain. Tu as le choix de brûler à peu près 1 à 2 litres d'essence, de carburant diesel à l'heure, ou de payer une assistance routière qui va te coûter une couple de 100$ pour venir booster ton camion. Fait que moi, je privilégie le 8, 9, 10 litres pour la nuit. Puis ça ne coûtait pas trop cher à l'entreprise. Puis je peux aller livrer ma marchandise safe que le camion est parti le matin. Les huiles sont chaudes.
Exact, exact. On passe la soirée avec Benoît Therrien de Truck Stop Québec. On va faire une très courte pause et on revient tout de suite après.
Marceau le soir.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Benoît Terrien de Truck Stop Québec qui nous fait grâce de sa présence ce soir. Bonsoir, mon éminence. Tout va bien?
Yann, on parlait en début d'émission de ligne ouverte. À quand Yannick Marceau en ligne ouverte le soir?
Je vais en faire une sur les zones de boulevard, probablement dans les prochains mois. On en avait discuté avec les patrons la dernière saison, mais finalement... pour une raison que j'ignore, on avait comme passé à d'autres choses, mais ça me reste dans la tête, peut-être de façon éphémère. C'est sûr et certain que le soir, nous, ce qu'on présente, c'est la musique rock à Québec. Là. C'est une station de radio talk, mais aussi très, très rock. Puis, donc, on présente de la musique, fait qu'il faut toujours demander la permission au patron, bien entendu. Puis le CRTC est là pour nous watcher. Mais oui, de façon éphémère, je pense que ça pourrait être possible. Puis, garde, d'ici là, je t'en reviendrai avec ça. Là. On en jasera avec vous autres là, chez Truck Stop Québec aussi.
Bien, une ligne ouverte, ça a sa place. Malheureusement, toutes les stations les ont délaissées ou à peu près parce que ça ne doit pas être une case qui est peut-être des plus lucratives, mais ça maintient ton auditoire. Et moi, j'y crois, mais en tout cas, tu sais, je te lançais ça comme ça. À cette heure, la balle est dans ton camp.
Stay tuned, on aura l'occasion d'en reparler. Hey, Benoît Terrien, c'est-tu possible pour des camionneurs de transporter de la dope entre le Canada et les États-Unis ou entre les États-Unis et le Canada?
Tu parles nécessairement de ce camionneur-là qui s'est fait prendre à la frontière avec 650 000 beaux dollars de cannabis dans son camion. Puis là, je veux pas que vous riez des camionneurs, ça peut arriver à tout le monde. Mais normalement, quand on ferait un genre d'inspection ou de préparation avant départ, puis là, je m'adresse à tous les camionneurs, ne faites pas l'erreur de ce camionneur-là qui s'est fait prendre par les autorités américaines. En fait, lui, il part. Il va se ravitailler dans le secteur de Bécancour. Il ramasse une pleine cargaison légale de cannabis qui est destinée vers le Nouveau-Brunswick et qui va aller faire la livraison. C'est légal. C'est un peu comme... quelqu'un qui charrierait, je ne sais pas moi, de la médication, de la morphine ou des dérivés de la morphine de légale et qui amènerait ça d'un centre de fabrication vers peut-être des pharmaceutiques qui vont changer ça peut-être en d'autres produits. Notre camionneur, lui, décide de partir et le GPS lui dit qu'il y a un shortcut qu'on peut passer par les États-Unis. Et là, bien... il suit le GPS, et ça, c'est l'erreur numéro un que bien des camionneurs font, c'est que le GPS est la vérité infuse. On ne devrait jamais se fier à 100% au GPS. Le GPS, lui, il prend le point le plus court entre A et B, et ça se dirige, et il se présente à la frontière américaine. Là, il a envoyé, je ne sais pas où tout ça a déboulé, parce qu'il aurait dû avoir un genre d'alerte quelque part. Quand moi, j'envoie mes documents ce qu'on appelle au courtier en douane, et qui aurait pour 650 000 de hashish ou de pot, whatever, name it, dans mon véhicule, je ferais un téléphone et je dirais à la compagnie, il est mieux de ne pas se présenter ici, là, parce qu'on va avoir des problèmes. Mais lui, il envoie ses documents, il y a quelqu'un quelque part qui a rempli les documents, comme si tout était correct, il se présente à la frontière américaine, et là, le douanier, naturellement, l'intercepte. Puis lui, ben, il a les documents. Il n'y a rien à se reprocher, le chauffeur. Je transporte du pot. Il n'y a pas rien caché ou quoi que ce soit. J'ai 650 000 de pot. Donne les documents au douanier. Le douanier dit « colle-toi sur le bas ». Et là, ben, vient nécessairement la saisie du véhicule.
Mais tu vois, c'est là où moi j'ai bogué sur cette nouvelle-là. Parce que peut-être que c'est moi qui ne serais pas un assez bon douanier. Mais tu es un douanier américain. Tu connais les règlements au Canada. Puis là, tu t'aperçois que le chauffeur qui est là, il s'en va dans une autre province. Mais il veut faire un genre de raccourci vers les États-Unis. Je prends conscience de ça. Je sais très bien que je peux le mettre dans la marre, dans sacrament, le chauffeur. Là. Oui. Je dirais, écoute, refais le chemin, là. Retourne ton camion, retourne au Canada, parce que si tu restes ici puis tu essaies de passer un mètre de plus, je vais être obligé de procéder à ton arrestation parce que tu n'as pas le droit de passer de la dope ici. Puis je vais, même si c'est légal là, chez vous, puis je vais faire tout en mon pouvoir pour retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la remorque, puis tu ne reverras jamais le stock. Tu sais, à un moment donné, il y a comme le gros bon sens aussi du douanier américain qui sait comment ça se passe au Canada, il sait comment ça se passe aux États-Unis. Il y a juste à dire, hey, revire de bord, tu peux pas venir ici avec cette marchandise-là. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont foutu dans la marde.
Ben lui, le camionneur, c'est tel que tel, là, c'est correct, là, tu sais. Mais l'entreprise de transport, parce qu'il y a eu un dépôt d'une poursuite de quelque part comme 1,4 million de dollars à l'entreprise de camionnage, parce que ben, le producteur de cannabis, lui, il se dit, moi, je l'ai produit, j'ai pas les sous nécessaires que j'aurais dû recevoir. Et c'est pas parce que ton camionneur a pris la mauvaise route que moi, je dois payer pour ça. Et la compagnie n'avait pas les assurances nécessaires. Le camionneur, nécessairement, il n'est pas assuré pour ça. Là, c'est un méchant micmac. Puis moi aussi, j'abonde dans le même sens que toi de dire, bon, mais pourquoi qu'on n'a pas tout simplement viré le camion de bord, fait demi-tour, retourne au Canada. Puis souvent, ben vous le savez, quand vous arrivez à la douane et à cette heure, ben on indique genre un kilomètre en avant, cannabis interdit aux États-Unis. Fait que là, jetez-les, allez le jeter... je ne sais pas, moi, au duty-free ou quelque chose, là, mais débarrassé, vous ne devez pas avoir de cannabis en votre possession. Les Américains ne vous laisseront pas traverser la frontière avec ne serait-ce qu'un milligramme de cannabis. Là, et essayez surtout pas ça. Mais lui, il est de bonne foi, le camionneur. Lui, il se présente à la douane. Il a les connaissements, ça veut dire les billes en conséquence. Il donne ça au douanier, puis le douanier voit ça. C'est sûr que lui, il se dit, mon Dieu, que c'est? Il doit savoir dire quelques qualificatifs. Quelle espèce de bon chauffeur que c'est ça. Mais lui, il ne se reproche à rien. Lui, il charrie ce qu'on lui dit. Puis, il se charrie tellement d'affaires là, dans notre industrie. Là. Bon, le pot, nécessairement, mais aussi toutes les pharmaceutiques de ce monde. Les produits, tu sais, normalement, on ne doit pas consommer, mais que ça se retrouve dans nos trailers. Puis, la douane, tout simplement, tu sais, on écoute peut-être tous les séries là, sur certaines chaînes de douane ou quelque chose sans frontière américaine. Et généralement, il y a beaucoup de douaniers qui disent, bon, regardez d'abord. Mais lui, c'est la prise du siècle là, pour ce douanier-là. Là. Mais il n'y a rien à faire. C'est pas une trouvaille interdite. C'est tout simplement un chauffeur qui se fie à son GPS et qui se rend aux États-Unis pensant sauver du millage. Puis on appelle ça rentrer inbound, là, le vrai terme. Ça veut dire que normalement, ça se fait. Là. C'est pas interdit de, mettons, si je prends d'ici puis j'irai à Vancouver, puis je dis, okay, je vais passer par la douane de Détroit, puis je vais passer par le nord des États pour me rendre à Vancouver. Bon, on appelle ça en transit. Là. Et j'arrive à la douane et je dis, bon, ben voici, je veux passer en transit sur votre territoire. Ou toutes les loads qui vont au Mexique, c'est la même chose. Et ils vont nous mettre un seau, un sigle. Sur la remorque, et le même seal devrait être brisé encore à la douane américaine avant de retraverser pour être certain que tu n'as pas fait d'autres transports ou d'autres moves plus délicats aux États-Unis. Tu as tout simplement passé sur et tu as payé des taxes routières de carburant aux États-Unis. Il ne refuse jamais ça, mais tu sais, visiblement, puis probablement que le douanier s'est vu, il a vu le camionneur, il a dit OK, il s'est fourré bien raide, là. Peut-être que reveille d'abord votant. Mais ça fait un beau CV, probablement, dans le dossier du douanier de dire j'ai une cargaison de plusieurs milliers de dollars de cannabis, je l'ai trouvé. Mais non, mais c'est parce que tu as le connaissement des mains. Le bill, il est écrit, il y a tant de grammes, de livres, de paquets ou whatever, de cannabis. Tu avais juste à le lire, puis c'était pas plus compliqué que ça. Et normalement, quand on reçoit. Quand j'envoie mes documents à la douane, je reçois une confirmation avec un numéro que je dois inscrire. Le douanier, lui, quand il voit ça, là, il n'est pas allumé de dire « Ouais, il y a quelqu'un qui essaye de passer des centaines de milliers de dollars de cannabis. » Il n'y a pas quelqu'un qui aurait pu prendre le téléphone et dire « Roger, Ginette, whatever, retourne ton camion de bord. Il n'est pas à bonne place. Là, on ne l'acceptera pas puis on va le mettre dans le chenoute. »
Ouais, genre de double vérification, je comprends. Je comprends.
Ah ouais. Ouais. On aurait pu, puis l'employeur aussi aurait peut-être pu. Des fois, c'est lui qui fait les documents de douane.
Puis je me posais une question comme ça, puis on sort totalement de ce dossier-là, parce qu'on tient à garder nos maisons. Là. Mais mettons que t'es un camionneur. On dit, va chercher telle remorque, il y a telle affaire dans remorque. Toi, tu vides pas la remorque pour inspecter tout ce qu'il y a dedans. Tu sais, c'est rempli à ras-bord. Fait que s'il y a quelque chose dans le fond de la remorque que t'as pas vu, puis que les douaniers arrivent et disent, hey, t'as quelque chose dans le fond de la remorque que nous autres, on suspecte être de la dope, eux autres, ils vident ta remorque au complet, puis le camionneur pourrait être poursuivi?
En fait, il va falloir qu'eux autres T'sais, trouve une preuve que tu es relié à tout ça.
Ouais, mais c'est toi qui le transporte, c'est ton camion, c'est ta remorque, tu es supposé de faire ton inspection et tout ça. Tu dois être responsable de ça.
Supposé, mais bon. Les cachettes les plus connues, on défait un panneau de bois à l'intérieur de la remorque et puis on va cacher la cargaison de l'autre bord puis on va revisser ça. Dans le cas d'un camionneur, souvent, si j'arrive, bon, je sais pas, Jacksonville en Floride, et je fais un switch de remorque. Je drop ma remorque vide, je balaye, elle est toute bien propre, ferme les portes et je m'attelle sur une autre remorque. Il y a un seau en arrière. La réglementation m'interdit d'aller briser le seau. Fait que si on m'a mis 25 paquets de je ne sais pas trop quoi, ben moi, je peux dire, regarde, quand je l'ai pris, j'avais un seau dessus. Et c'est le seau numéroté. Et là, peut-être qu'on va aller... Peut-être que je vais passer un mauvais quart d'heure, effectivement, mais possiblement aussi qu'on va aller inspecter à la compagnie. Jusqu'à temps qu'ils démêlent tout ça, d'après moi, tu es suspect numéro un. Mais est-ce qu'après vérification, on va s'apercevoir, écoute, il y avait un saut, il y avait ci, il y avait ça. Le body language va parler aussi. Selon ta déposition, tu vas dire, ben moi, regarde, j'ai reçu un message satellite, j'ai piné cette remorque-là, je suis parti avec. Je n'ai peut-être charrié, ne sachant jamais ce qu'il y avait dedans. Puis, je n'ai peut-être jamais charrié, je ne pourrais jamais le prouver. Mais il y a tellement de façons de transporter des matières illicites que souvent, puis je dirais même 80-90% du temps, le camionneur ne le saura pas, à moins d'être impliqué comme il y a quelques années avec une gang qui agissait au niveau de Las Vegas, qui, lorsque tu arrêtais au truck stop, « Hey, salut, un petit Québécois, toi, hey, j'ai un sac d'hockey, voudrais-tu ramener ça, te donner l'argent pour ça? Quand tu vas arriver à Montréal, là, t'appelles un tel, avec un téléphone jetable, naturellement, t'appelles un tel, puis lui, il va aller chercher ça, puis il va te payer sur place. » Mais ça donne, « Ah, donnez 25 000 $. » Tu veux-tu risquer d'être 3, 4 ans, 5 ans en prison pour avoir essayé de transporter un sac d'hockey rempli d'on sait quoi, puis que tu vas mettre dans le bed, puis que nécessairement, quand tu vas arriver à la douane, t'es probablement ce qu'on appelle le poisson en avant. Ils vont te touler d'avance. T'arrives à la douane, tu te fais prendre, ils inspectent. Le temps qu'ils t'inspectent, ils ne sont pas à checker les autres qui rentrent en arrière. Puis avec des cargaisons peut-être un peu plus augmentées. Puis juste le fait que toi, ben tu vas bénéficier d'un beau 3 ans, 4 ans en cellule, ben c'est souvent t'es l'appât de la gang. Puis, mais tu sais, faut pas se leurrer. Il y en a qui le font. Il va toujours en avoir qui vont le faire. Puis ça ternit énormément notre image parce qu'il faut vivre avec ça. Puis si jamais je travaille pour un logo X de transport et qu'il y en a un dans ma gang qui se fait prendre, bien, tout le reste de la compagnie, à chaque fois qu'on va passer aux douanes, bien, les douaniers ont une crainte de nous autres. Fait qu'ils nous envoient à l'inspection tout le temps. On perd du temps énormément.
Ah oui.
C'est souvent du bénévolat.
Tu sais, ils ont des moyens techniques maintenant, là, les douaniers, qui sont pas mal plus évolués que quand on passait les frontières des années 80, 90, 2000. Tu sais, juste ma dernière expérience, à Montréal, on se fait dédouaner d'avance quand on prend l'avion pour les États-Unis. Oui. Ils ont pris une photo de moi. Et cette photo-là leur a servi quand je me suis fait dédouaner aux douanes maritimes, quand je suis revenu à Porto Rico. Il y avait un genre de lecteur qui te regardait à face, puis en une milliseconde, ça a donné un code vert, comme quoi c'était correct, je pouvais passer. Mais écoute, j'avais pris cette photo-là à Montréal. Combien de personnes font la transition entre le Canada et les États-Unis chaque jour? J'avais pris cette photo-là à Montréal, puis quelques jours plus tard, cette photo-là était rendue à Porto Rico, et en une milliseconde, ils ont réussi à savoir que j'étais le même individu puis que j'étais code vert.
Oui. Puis, il y a même de ces lecteurs-là, dans le cas des cartes face, dans notre industrie, là, c'est des cartes qui, écoute, étaient quasiment blanchies de tout. Là. Une fois que tu as rempli ce document-là et que tu as ta carte face, c'est l'équivalent d'une carte Nexus pour les voyageurs qui voyagent régulièrement.
Okay.
Moi, je suggère à tout le monde d'aller chercher. Dans le transport, la carte face, là, tu peux pas passer à côté de ça, là. À moins que tu aies déjà fait des coups un peu plus jeune, faut que tu montes patte blanche. Et quand tu montes patte blanche, moins de questions, moins d'inspections, parce que tu es comme un travailleur qui est trop stable, c'est le vrai nom. Et c'est la même chose pour la carte Nexus quand tu es un voyageur régulier. juste passer la douane, mettons, tu dis, qu'un, on va aller passer une fin de semaine à Plattsburgh. Ben, il y a une ligne Nexus. Tu vas aller dans d'autres douanes aussi, il y a des lignes Nexus. Et quand tu atterris à Trudeau, à Montréal, tu débarques et, tu sais, quand tu descends la grande escalier, puis là, il y a plein de lecteurs. Mais à cette heure, tu sais, tu tournes à droite, tu vas et normalement, tu arrives avant que la première valise sorte dans le carrousel et t'attends. C'est comme ça, mais tu as bien moins de troubles. Je pense que c'est 80 ou 100 $ là, pour 4-5 ans. Tu ne peux pas passer à côté de ça. La seule affaire, bien, il y en a qui sont très nerveux à ça, c'est que tu devras te présenter à la douane américaine. Elle peut être à l'aéroport, elle peut être dans n'importe quel poste frontalier. Tu vas devoir avoir une entrevue avec un douanier américain. Pareil comme dans le transport, c'est le même procédé. Le douanier américain va prendre tes empreintes digitales, va regarder si tu as un dossier judiciaire qui est vu ou en tout cas qui est connu des Américains. C'est la même chose. Après ça, tu retraverses au niveau canadien, une autre entrevue. Là, il n'y a pas de prise d'empreinte et tout ça. Et on va photographier ton iris. Ça a l'air qu'on n'a pas la même iris, toi et puis moi. Puis c'est ce qui va authentifier que tu t'appelles bien Yannick Marceau.
Non, d'ailleurs, Véronica m'a dit que j'avais... Monica m'a dit d'ailleurs que j'avais une plus belle iris que la tienne. Elle m'a dit, Yann, ouais, t'as une plus belle iris que Ben. Je tenais à te le dire. Je dis merci, Monica. C'est gentil.
J'ai eu la même chose de Maud, moi, qui m'a dit ça.
Ah oui? Ah oui, c'est vrai, Maud, qui travaille ici à la station, a trouvé que t'étais très intéressant. Mais c'était avant que je montre ta photo, mon Ben. Hey, il reste à peu près 30 secondes, Ben, oui, à l'émission. On n'a pas passé au travers de 5% des sujets qu'on voulait aborder, là. Mais cette statistique-là m'intéresse. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Le marché du camionnage américain qui est malheureusement en baisse pour ce qui est de 2023. Il y en a qui vont dire que c'est pas une baisse qui est drastique. On s'attendait à peut-être un peu plus que ça aux États-Unis, mais 16% quand même pour ce qui est du marché du camionnage américain. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on vit à peu près la même chose au Canada?
Ce que j'entends parler, c'est qu'au niveau américain, c'est plus difficile un petit peu qu'ici actuellement, mais nous autres, on suit les Américains. Donc, on va plonger probablement dans les prochaines semaines vers 16%. 16%, c'est facile à calculer, c'est 16 camions sur 100 qui n'ont pas de cargaison en ce moment. Fait que ça fait, si tu as 100 camions dans ta compagnie, tu as 16 camions qui restent à compagnie faute d'avoir des cargaisons à les livrer. Mais ça, c'est dans l'ensemble des Américains. 16%, c'est beaucoup, moi, je trouve, et c'est un record qui datait d'il y a 25 ans. Donc, c'est de dire à quel point l'économie américaine a plongé. Et mais au niveau américain, ils vont se relever assez vite. Quand ça va repartir au niveau américain, les transporteurs canadiens vont retrouver un peu de marchandises à aller livrer aux États-Unis. Là, tu sais, c'est plus difficile. On a des retours des États-Unis. On n'a pas de sortant du Canada vers les États-Unis. Ça veut dire qu'on ne produit pas assez de matières premières pour que les Américains la transforment puis qu'on la ramène actuellement. C'est énorme, 16%. Je pense que, bon, connaissant l'économie, c'est toujours en dents de scie, c'est des montagnes russes. Quand ça va repartir, attachez votre sucre, ça va repartir. Est-ce que ça sera aussi bon qu'avant la pandémie? La pandémie nous a ralenti, a enlevé beaucoup de pièces sur les chaînes de montage. J'ose croire qu'on va retrouver une forme d'activité. Est-ce que ça sera autant? Je pense pas, mais on n'a qu'à regarder les cours de dealers actuellement. Ils sont plus vides comme qu'ils étaient. Fait qu'on a retrouvé un petit peu d'énergie, puis ça va favoriser peut-être le pouvoir de négociation de monsieur et de madame tout le monde. Avant, t'achetais un char, il était sur photo, puis tu l'avais 3 mois, 4 mois, 5 mois après. À cette heure, il est dans le cours, tu le veux, bien, préparation, puis on va te le livrer. Mais les taux d'intérêt sont tellement élevés que, puis même dans notre industrie, acheter un camion de 300 000 piastres à un taux d'intérêt de 8, 9, 10, 11, 12 % ça fait mal. Et les compagnies étirent les camions jusqu'à temps qu'on les use de plus en plus. On fait beaucoup d'entretiens mais on fait peut-être moins d'achats neufs, ce qui fait que la roue tourne moins. Elle roule sur un flat en bon français.
Benoît Thérien, les passionnés de camions, les camionneurs, les camionneuses, ceux qui vous aiment, on vous invite sur truckstopquebec.com où j'ai le plaisir de vous jaser chaque lundi. Puis pour les autres, ben merci d'être là sur les ondes de boulevard. On a l'occasion de jaser avec vous autres à Truckstop Québec assez régulièrement. Puis on vous aime, merci beaucoup du travail que vous faites pour nous autres, parce que sans vous, on vous le dit, sans papier de toilette, on serait une coupe dans le bois en train d'essayer de chercher des feuillus.
À ce temps-ci, ils sont durs à trouver.
Salut Yann! Salut Ben! Bye-bye! Un gros merci. On s'arrête là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur les ondes de boulevard. Et demain, 11h, je serai présent en compagnie de la CV ainsi que Thomas pour ce qui est de Marceau le midi. Bye-bye!
Marceau le soir. Le 14 février dernier, t'as servi un fish and chip à ta blonde